VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 17 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, l'ex-président Omar El-Béchir a été déféré hier au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. Sa première apparition en public depuis sa destitution en avril par l'armée.
Au Niger, une église a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche à Maradi suite à l'arrestation d'un influent imam qui a été relâché hier.
En République démocratique du Congo, de nouveaux incidents visant les actions sanitaires contre Ebola ont été signalés en Ituri.
Les États-Unis promettent de garantir la liberté de navigation à travers le détroit d'Ormuz suite à l'attaque de la semaine dernière contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman.
À Hong Kong, près de 2 millions de personnes ont manifesté hier pour exiger encore le retrait du projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Soudan, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, numéro 2 du Conseil militaire de transition, s'est exprimé hier devant des partisans, considéré par beaucoup comme l'actuel homme fort du pouvoir. Il est soupçonné d'avoir orchestré les violences commises lors de la dispersion du sit-in le 3 juin et la répression qui a suivi. Des milliers de manifestants participaient à ce rassemblement devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils après le renversement le 11 avril du président Omar El-Béchir par l'armée. De Khartoum, notre correspondante Patricia Huon fait le point.
Ils sont quelques centaines venus de diverses régions du pays, amenés par bus à Khartoum pour écouter le lieutenant-général Mohamed Hamdan, surnommé Hemedti, numéro 2 de la junte militaire au pouvoir. Un peuple, une armée, scande l'auditoire dans une salle de conférence de la capitale. Pour Hemedti, accusé d'avoir lâché ses troupes sur les contestataires, c'est une opération de communication afin de tenter de revendiquer une légitimité et un soutien populaire. Il affirme que le démantèlement du sit-in est un piège qui a été tendu afin de blâmer ses troupes, les forces de soutien rapide, et que ceux qui ont commis des crimes ce jour-là seront punis. La coalition d'opposition continue de demander un partage du pouvoir et une enquête internationale sur le massacre qui a fait au moins une centaine de morts. Hier, l'ex-président Omar El-Béchir a été vu pour la première fois en public depuis sa destitution en avril. Accusé notamment de corruption, il a été conduit depuis sa prison vers le parquet et devrait comparaître cette semaine devant la justice. Une comparution qui viendrait à un moment opportun pour détourner l'attention sur les accusations qui pèsent sur l'ancien homme fort du pouvoir plutôt que sur ceux qui ont pris sa suite. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
En Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli a annoncé hier une initiative prévoyant des élections avant la fin de l'année pour sortir le pays de la crise. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Fayez al-Sarraj, en coordination avec la mission d'appui de l'ONU, a proposé la tenue d'un forum libyen pour réunir les forces influentes sur les plans politiques et sociaux et partisanes d'une solution pacifique et démocratique. Cette initiative prévoit notamment la tenue simultanée d'élections présidentielles et législatives avant fin 2019, sans annoncer de calendrier. Après plus de deux mois d'offensive, les forces du maréchal Khalifa Haftar sont toujours bloquées aux portes de Tripoli. Les deux camps refuse de négocier un cessez-le-feu, le GNA exige le retrait des forces du maréchal Haftar vers leur position initiale dans le sud et l'est du pays. De son côté, le maréchal Haftar dit combattre des terroristes et refuse de faire marche arrière. Selon un dernier bilan des Nations Unies, les combats ont fait depuis le 4 avril plus de 653 morts, au moins 3500 blessés et quelques 94 000 personnes déplacées.
Dans le sud du Niger, une église a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche à Maradi. Des manifestants protestaient contre l'arrestation samedi d'un influent imam qui a été relâché hier. De nouveau, Irénée Herman Ungbo.
Le calme est revenu à Maradi, mais l'église de Zaria, quartier populaire de cette ville, a été brûlée. Des groupes de jeunes ont manifesté samedi en posant des barricades et en brûlant des pneus. C'était peu après l'arrestation de Cheikh Rayadoun, influent imam de la mosquée de Zaria. Il avait qualifié vendredi d'anti-islam un projet de loi sur l'organisation de l'exercice du culte au Niger. L'imam, qui a été remis en liberté hier, a reconnu son erreur et a présenté des excuses. Il dit avoir été induit en erreur par ceux qui ont traduit du français au Haoussa un texte supposé être le document officiel. Ce projet de loi qui a été adopté fin avril en Conseil des ministres doit être discuté au Parlement ce lundi en vue de son adoption. Il consacre le droit de l'État de contrôler les sources de financement et l'exploitation des lieux privés de culte pour éviter la propagation de l'extrémisme religieux.
Au Cameroun, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a annoncé hier dans un communiqué que 4 policiers ont été tués et 6 autres blessés samedi dans l'explosion d'une mine au passage de leur voiture à Otou, localité située dans le sud-ouest, l'une des 2 régions anglophones théâtre d'un conflit armé depuis fin 2017 et où les séparatistes anglophones militent pour la création d'un État indépendant. Selon l'ONU, la crise a déjà forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile et en 20 mois, le conflit a fait 1850 morts selon le centre d'analyse International Crisis Group.
Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires ont annoncé hier que le point de contrôle Mudzipela a été détruit puis incendié dans la nuit de samedi à dimanche en Ituri, dans le nord-est du pays, où des équipes sanitaires continuent d'être ciblées. Ces points de contrôle servent à prélever la température et laver les mains aux frontières et sur les routes des zones où la maladie est signalée. Et puis un groupe de motards a essayé de s'en prendre à une équipe de prévention et contrôle des infections qui était en train, selon un communiqué du ministère de la Santé, de décontaminer le ménage d'un cas confirmé d'Ebola à Ho'o, dans la zone de santé de Rwampara.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis promettent de garantir la liberté de navigation à travers le détroit d'Ormuz, que ce soit par des pourparlers diplomatiques ou par une intervention militaire. Dans une interview à Fox News, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit que les États-Unis ne veulent pas la guerre, mais qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires, diplomatiques ou autres, pour obtenir ce résultat. L'Iran a été accusé par Washington d'être responsable de l'attaque la semaine dernière contre les 2 pétroliers norvégiens et japonais dans le golfe d'Oman. Le tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde transite par le détroit d'Ormuz. Téhéran a démenti les accusations de Washington.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a inauguré hier une nouvelle colonie sur la partie du plateau du Golan annexée et occupée par Israël, baptisée Ramat Trump, la colline Trump en hébreu, en l'honneur du président américain. « Merci, Premier ministre Netanyahou et l'État d'Israël pour ce grand honneur », a tweeté peu après M. Trump, qui a reconnu le 25 mars la souveraineté d'Israël sur la partie du Golan syrien conquise pendant la guerre de juin 1967, puis annexée en 1981, une décision qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale.
Par ailleurs, Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre israélien, a été reconnue coupable hier de mauvais usage de fonds publics. Elle est depuis longtemps la cible, avec son mari, d'accusations de malversation financière et de corruption. Le point avec Idriss Fall.
L'accord trouvé dimanche avec le procureur permet à Sarah Netanyahou d'échapper à une condamnation pour fraude. Elle a reconnu avoir dépensé environ 45 000 dollars sans autorisation et a accepté de rembourser une partie et de payer une amende. Madame Netanyahou avait été inculpée de fraude et d'abus de confiance en juin 2018 pour avoir fait passer près de 100 000 dollars de repas aux frais du contribuable. Benjamin Netanyahou a bien sûr défendu son épouse, disant que depuis longtemps, elle sert de punching ball pour les médias. Le premier ministre israélien, lui aussi, doit être entendu en octobre pour répondre d'accusations de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 autres affaires. Monsieur Netanyahou est en lice pour un 5e mandat après avoir échoué à former une coalition à l'issue des législatives en avril. Le prochain scrutin est fixé pour le 17 septembre.
À Hong Kong, le leader étudiant Joshua Wong a appelé aujourd'hui à sa sortie de prison. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a démissionné après les manifestations monstres contre son projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Selon les organisateurs, près de 2 millions de personnes ont défilé dimanche à Hong Kong pour réclamer le retrait de ce projet de loi décrié. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement béninois a donné son aval pour la construction de 4 centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 50 MW selon l'agence Ecofine. Les infrastructures seront implantées dans 4 communes du pays, Boikon, Parakou, Djougou et Nasitingou. Elles seront construites dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce projet bénéficie de l'appui du programme du Millennium Challenge Account. Les recettes du secteur du tourisme en Tunisie se sont établies à 509 millions de dollars au cours des 5 premiers mois de cette année. Cela représente une hausse de 43% par rapport à la même période de 2018, selon la Banque centrale de Tunisie. Cette hausse s'explique essentiellement par l'effet de change. Le dinar tunisien s'est en effet déprécié de 15,7% face au dollar américain et de 9% par rapport à l'euro entre fin mai 2018 et fin mai 2019. Les arrivées de touristes étrangers ont également augmenté avec plus de 2,7 millions d'arrivées comparées à l'an dernier. Pour finir, la semaine dernière, les prix du cacao ont grimpé à 1879 livres sterling à Londres et à 2552 dollars à New York, à leur plus haut niveau depuis 11 mois. Cette hausse est due aux exigences des 2 premiers producteurs mondiaux, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui demandent un prix plancher aux acheteurs. Ces 2 pays ont annoncé mercredi dernier qu'ils ne vendraient plus leur cacao en deçà de 2600 dollars la tonne, une décision historique présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Copa América qui se déroule actuellement au Brésil.
Oui, et on aura cette nuit le dernier match de la première journée de la phase de groupe dans le groupe C. Le Japon invité va en découdre avec le Chili. Et puis hier, dans ce groupe, l'Uruguay a pris la première place suite à sa victoire 4-0 devant l'Équateur.
Début difficile en revanche pour l'Argentine.
Les arbitres célestes ont chuté d'entrée devant la Colombie, vainqueur 2-0. L'Argentine, amenée par Lionel Messi, garde toujours sa chance de qualification dans ce groupe B après le nul 2-2 d'hier entre le Paraguay et le Qatar. Notons la bonne entente du pays hôte, le Brésil, facile vainqueur 3-0 de la Bolivie.
La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 5 jours et c'est le moment de régler les derniers détails.
Oui, avec des matchs de préparation et hier, le pays hôte de cette CAN, l'Égypte a battu la Guinée 3-1. Mohamed Salah est rentré en coup de jeu. De son côté, le Sénégal a dominé le Nigeria 1-0. But d'Idrissa Gueye, nul 1 partout entre la Tanzanie et le Zimbabwe. Et puis le Maroc battu par la Zambie, score 3-2. Le Mali, défait sur ce même score par l'Algérie. C'est Andy Delors qui a donné la victoire au Fenech en fin de match.
Justement, Élisée, le Mali tout entier à quelques jours de cette CAN, soulagé par la non-disqualification de sa sélection.
Oui, Idrissa, le scénario catastrophe d'une éventuelle exclusion à la CAN écarté. Les nouveaux statuts de la fédération ont été finalement votés. On le rappelle, c'était la condition sine qua non pour que les aigles puissent prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Sous tutelle depuis 1 an et demi, la FEMA Foot était menacée de suspension par la FIFA si elle n'adoptait pas ses nouveaux statuts à l'Assemblée Générale de ce samedi.
Football toujours et fin de saison au Bénin avec la Coupe Nationale.
Et c'est Esaü qui remporte en finale le trophée devant Aspac hier au stade René Pleven de Cotonou. Score 2-1. Les étudiants représenteront donc le Bénin la saison prochaine en Coupe de la CAF et en Ligue des Champions. Ce sera les Buffs du Borgou qui ont remporté en milieu de semaine le championnat suite à leur victoire de 3-0 face à Soleil FC de Cotonou. Le club de Parakou conserve ainsi son titre devant Béké FC de Mereké 2e et la Estonnet de Boïcon classé 3e.
Pétanque pour finir avec la CAN 2019 qui a eu lieu au Togo.
Oui, avec l'épilogue hier qui a vu le sacre de la Tunisie devant le pays autant le Togo en finale 13-9. Le Bénin complète le podium. Le pays du président de la Confédération africaine des sports boules qui a d'ailleurs été sacré champion d'Afrique en tir de précision grâce à Marcel Bior qui a dominé en finale l'Algérie 42-32. À noter que les 8 pays qui ont participé à cette compétition sont tous qualifiés pour les prochains mondiaux dans un an à Lausanne en Suisse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'alliance entre le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila tiendra-t-elle encore longtemps ? Cette question alimente l'actualité en RDC après les manifestations qui ont opposé pendant 3 jours à Kinshasa les militants de l'UDPS à ceux du PPRD. 6 mois après l'élection de M. Tshisekedi, de nombreux désaccords avec le camp de M. Kabila, majoritaire au Parlement, freinent la bonne marche d'un pays toujours sans gouvernement. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'objectif principal de notre réunion était de lancer l'appel au calme. La coalition entre FCC et CACH reste toujours d'actualité et nous sommes ensemble. Ce qui est arrivé les 3 derniers jours, ce n'est qu'un incident du parcours.
Cette déclaration du secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi Augustin Kabuya, a apaisé les militants de son parti et du PPRD qui se sont donnés en spectacle durant 3 jours à Kinshasa, à Lubumbashi et dans quelques villes du pays, après des propos jugé outrageant, tenu par le député du Front commun pour le Congo, Charles Nawej, à l'endroit du président Félix Tshisekedi lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. Ce dernier s'était posé la question de savoir si le président de la République n'avait pas inconsciemment signé les ordonnances nommant les comités de direction de la GECAMINE et de la Société nationale des chemins de fer du Congo. 2 jours après, les militants de l'UDPS Tshisekedi avaient pris d'assaut le palais du peuple, siège du Parlement, s'attaquant même physiquement à quelques députés nationaux. En réaction, ceux du PPRD de Joseph Kabila sont également descendus dans la rue. Résultat, quelques sièges des partis politiques saccagés à Kinshasa comme à Lubumbashi. Des questions se sont alors multipliées sur l'avenir de l'alliance entre le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila et Cap pour le changement de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi après ce énième rebondissement dans un mariage politique qui peine à trouver de la stabilité. Dieudonné Moïse, cadre du FCC, pense que malgré ces moments de turbulence, l'accord avec CACH survivra jusqu'en 2023.
Cet accord n'a pas été conclu pour rien. C'est sur base des réalités politiques que nous avons connues après les élections organisées. Ces élections ont obligé à ce que les deux familles politiques puissent cheminer ensemble et puissent conjuguer leurs efforts ensemble pour diriger ce pays.
Force est de constater que malgré cet optimisme affiché, la République démocratique du Congo n'a toujours pas de gouvernement, près d'un mois après que Félix Tshisekedi ait nommé le premier ministre Sylvestre Ilunga. D'où les scepticismes, voire le pessimisme de certains Kinois interrogés au sujet de cette alliance entre Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, et Joseph Kabila, dont le regroupement politique est majoritaire au Parlement.
La coalition CACH-FCC doit avoir une rupture parce qu'il n'y a pas de clarité là-dessous. C'est mieux qu'ils se séparent. Depuis qu'on a nommé le Premier ministre, ça prend du temps. On nous ment du jour au jour. La sortie du gouvernement, c'est demain ou après-demain. Et depuis l'investiture du chef de l'État, maintenant, c'est déjà 6 mois sans gouvernement.
Je n'approuve pas l'alliance CACH-FCC. Donc, le président de la République doit revoir les accords signés entre les FCC et les CACH parce que les FCC est en train de chercher comment bloquer les processus déjà déclenchés par le président de la République.
Moi, mon impression entre les FCC et CACH, c'est une bonne impression puisque ça va changer les pays. C'est pourquoi nous louons cette initiative.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Bénin, après les manifestations violentes à Cotonou et dans le nord du pays, des voix s'élèvent pour appeler au calme et à la culture de la paix. Les confessions religieuses de la nation appellent les acteurs politiques au dialogue, mais pour l'opposition, pas de dialogue, je cite, « sans que justice ne soit rendue pour les victimes fauchées par les balles des forces armées ». Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Comment tendre la main lorsque derrière on lance une chasse aux sorciers avec des arrestations tous azimuts pour Candide Azanaï du parti Restaurer l'espoir, pas de paix sans justice et vérité.
En l'état au Bénin, il y a usurpation et confiscation du pouvoir législatif à des fins de coup d'état sanglant en cours. Il faut savoir s'arrêter. S'il n'a pas donné les ordres, aucun militaire ne peut tuer. Et s'il n'a pas donné les ordres, il n'a qu'à interpeller le chef d'état-major des armées pour dire, moi, Patrice Talon, je n'ai pas donné des ordres.
Pour résoudre la crise post-électorale qui prend des proportions inquiétantes, les voix s'élèvent pour appeler à un dialogue franc et inclusif. L'association des pasteurs évangéliques et apôtres appelle les anciens chefs d'état à la sagesse et à montrer la voie pour une sortie de crise. Andrea Tempon est le porte-parole des pasteurs.
Nous supplions nos anciens présidents à agir toujours par la sagesse, qu'ils cherchent à conseiller, à exhorter, à apaiser autorités et populations.
Les députés élus sont conscients de l'importance du dialogue pour Ordène Aladati. Cela permettra un nouveau départ pour le bien-être du pays.
L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'ouverture vers l'inclusion, vers les discussions, et que les gens s'acceptent aussi que lorsqu'on ne s'est pas mis d'accord, que la majorité puisse prévaloir.
La situation de l'ancien président Yahi Bouni est une préoccupation. Selon ses avocats, il serait malade et en résidence surveillée. Samedi dernier, au cours d'une conférence de presse, Maître Kato Atita a dénoncé une attitude du pouvoir qui compromet durement la paix tant recherchée.
Où veulent en venir les gouvernants? Affaiblir le mouvement de la résistance, qu'incarnent les leaders politiques en isolant le président Yahi Bouni, opposé à l'intérieur du mouvement de résistance les différentes composantes régionales et ethniques et sociales qui la composent. Soit c'est le premier objectif. Mais je dois vous dire, mes chers amis, que Yahi Bouni dit qu'il reste solidaire et très solidaire du mouvement de la résistance. Il ne trahira pas ses convictions au sein du groupe des leaders de la résistance.
Certains partis de l'opposition ont accepté la main tendue de Patrice Talon pendant que les autres, dont les forces coréennes pour un Bénin émergent de Yahi Bouni, lui et celle de Sébastien Adjavon et Restaurer l'espoir du candidat Azanaï, disent simplement non et exigent des préalables. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, un commissaire de police et deux de ses agents ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 2 millions de francs CFA le week-end dernier par le parquet de grande instance de N'Djamena pour avoir torturé à mort un prévenu dans un commissariat de sécurité publique. A signalé aussi une autre amende de 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts opposables à l'État tchadien qui est civilement responsable. André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique au Tchad, revient sur cette condamnation.
Le commissaire premier adjoint du CSP7, Abdelkirim Harou Nassour, a été inculpé au même titre que ses deux agents par la justice tchadienne pour complicité des coups et blessures volontaires mortelles. Le tribunal a estimé que c'est sur son instruction que Yahya Daoud, un jeune en détention préventive, a subi des sévices corporels et actes de torture ayant entraîné sa mort au commissariat dont il était l'un des responsables. Pour l'avocat de la défense Bailassam Lombatna Franklin, le droit n'a pas été dit dans cette affaire.
Ni le parquet, moins encore la partie civile, n'ont rapporté la preuve. Le parquet n'a même pas requis la complicité, mais le tribunal est passé outre pour retenir mon client, le commissaire Abdelkerim, dans les liens de l'infraction. Donc je suis assez désolé pour le verdict qui est tombé. Il n'a nullement demandé à quiconque de torturer ou de taper sur un concitoyen tchadien.
En revanche, le président de l'Association nationale d'aide aux détenus, Mohamed Kader Mohamed, se dit satisfait de ce verdict. Toutefois, il émet des réserves quant à l'exécution de cette décision.
C'est un acte salvateur parce que ça peut servir d'école pour les autres
cas pour que à l'avenir de tels actes ne se reproduisent. Connaissant les méandres de la justice tchadienne, je prends ça avec beaucoup de réserve, étant donné que on a condamné les gens et 2 mois après on les retrouve dans la rue sans avoir purgé leur peine.
Le climat de méfiance entre la population et la police nationale a obligé le ministre en charge de la sécurité publique à visiter quelques commissariats de la ville de N'Djamena. Mahamad Abali Salah a déploré que la plupart de ces commissariats sont gérés par des commissaires qui ne savent ni lire ni écrire.
Dans 3 jours, que tous les commissaires de la ville de N'Djamena soient des gens lettrés, des gens qui savent lire. C'est bizarre, c'est très bizarre que d'avoir un commissaire qui est censé appliquer la loi qui ne sait pas lire.
Pour Mahamad Kader Mahamad, président de l'Association nationale d'aide aux détenus, la déclaration du ministre en charge de la sécurité publique est un aveu d'échec.
Vraiment, c'est un acte déplorable venant d'un ministre en disant que dans des commissariats de la ville de N'Djamena même, c'est des illettrés qui gèrent ces commissariats. Il faudrait qu'il y ait au moins une police de police, une structure qui relève des polices judiciaires qui doit être au-dessus des autres en sillonnant les commissariats et d'autres centres de détention pour faire la situation.
Pour certains observateurs, la condamnation du commissaire premier adjoint du CSPCET et ses agents, ainsi que la promesse du ministre en charge de la sécurité publique de relever tous les commissaires analphabètes peuvent réinstaurer la confiance entre civils et policiers. Confiance mise à rude épreuve suite aux décès répétitifs de jeunes en détention préventive dans les commissariats des suites de torture. André Kodou Matingar N'Djamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La 29e journée de l'enfant africain commémorée ce dimanche à travers le continent, instituée par la défunte OUA, elle rappelle le souvenir des centaines d'enfants sud-africains massacrés à Soweto lors d'une marche pour leurs droits. Reportage sur la situation des enfants au Gabon avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Une étude officielle menée ces 5 dernières années a révélé que 77% des enfants gabonais sont victimes de violences dans leur milieu familial, dans leur communauté ou encore à l'école. Edith Mavioga, psychologue.
Le fait que l'enfant ne communique pas avec l'un des parents, soit le père, soit la mère, ça peut pousser l'enfant à aller dans la rue. Il faut écouter l'enfant, il faut amener l'enfant à communiquer, à dire son problème.
Protéger ces êtres vulnérables est le combat quotidien de la maison de charité Tabitha. La présidente de cette ONG se remet d'un drame familial avec la perte de son enfant en 2016. Joanna Ngondi.
Il avait déserté la maison et il s'est entiché de personnes peu fiables. Il a terminé mort avec une balle dans la tête. Donc je ne voudrais pas que ces enfants, garçons, ces adolescents puissent connaître le même sort. Non à ceux qui soient délinquants, non à la prison, non aux drogues.
L'ONG Tabitha a beaucoup contribué à la réinsertion sociale de plusieurs enfants victimes de violences ou qui sont orphelins. Un témoignage avec Daniel Medza.
L'ONG m'a permis de un peu me relâcher. Comme là, je viens de parler en public, mais avant, je ne parlais pas en public. Et ils m'ont dit de bien étudier. Alors, je commence à me plonger dans mes cahiers. Et je pense que j'ai réussi mon examen.
Au Gabon, une des violences coutumières est le meurtre rituel d'enfants. Jean-Elvis Ebando, président de l'association de lutte contre les crimes rituels.
Chaque année, il n'y a pas moins d'une trentaine d'élèves, des jeunes, quand j'entends par jeunes, des jeunes de moins de 18 ans, des 0 à 18 ans, qui sont assassinés. Mais le mode opératoire change actuellement. Le système en place étouffe les médias d'en parler et fait tout pour couper le robinet, empêcher aux partenaires de développement, les gens de bonne moralité, de nous soutenir. Et ils pêchent par les moyens d'intimidation, de corruption, des parents qui sont tellement ancrés dans le combat que nous menons.
Pourtant, le gouvernement dit œuvrer à la protection du droit des enfants. Camille Bengandong, directrice générale des affaires sociales au ministère des Affaires sociales.
Le code de l'enfant vient d'être réécrit et adopté par le Parlement. Donc le Gabon a refait son code et aujourd'hui les droits des enfants sont respectés plus qu'auparavant.
Depuis Libreville, Ismaël Obiangze, VO Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraogo. Tout le lundi soir, VO Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Harold Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Dressa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.